Chapitre 11. En roulant vers le sud, sur l'autoroute 1 mile par minute, je cherchais à me convaincre que j'avais pas à me mêler de l'affaire Caroline Poulain. C'était le terrain d'expérimentation de Hal, pas le mien. Et ses expériences, tout comme sa vie, étaient finies. Le cas de la petite Poulain était complètement différent de celui de Doris, Troy, Touga et Helen. Certes, Caroline allait être paralysée de toute la moitié inférieure du corps, et c'était une chose terrible. Mais être paralysée par une balle perdue n'a rien à voir avec mourir d'un coup de masse à bestiaux. En fauteuil roulant ou sur ses deux pieds, Caroline Poulain vivrait une vie riche et féconde. Il faudrait que je sois fou pour risquer ma véritable mission en allant narguer le passé tenace qui ne demandait qu'à ouvrir sa gueule pour ne faire de moi qu'une bouchée. Mais tous ces beaux arguments ne prenaient pas. Mon intention initiale avait été de m'arrêter à Boston pour passer ma première nuit sur la route, mais l'image de Dunning écroulé sur la tombe de ses parents, le panier de fleurs écrasé sous lui, m'obsédait. Il méritait de mourir. Merde, il fallait qu'il meure. Mais le 5 octobre, il n'avait encore rien fait à sa famille, du moins à sa seconde famille. Je pouvais me dire qu'il en avait fait beaucoup à la première, et je me le disais bien sûr. Qu'au jour du 13 octobre 1958, il était déjà un double meurtrier, l'une de ses victimes étant à peine plus qu'un nourrisson. Mais je n'avais que la parole de Turcotte pour ça. Je suppose qu'en fin de compte, j'ai voulu compenser un acte qui me paraissait mauvais, encore que nécessaire, par un acte que j'estimais bon. C'est ainsi qu'au lieu de rouler jusqu'à Boston, j'ai pris la sortie d'Auburn et me suis enfoncé dans l'ouest du Maine et la région des lacs. Juste avant la tombée de la nuit, je suis arrivé au chalet où Hal avait séjourné. J'ai pu louer le plus grand des quatre sur la rive du lac, à un tarif hors saison ridiculement bas. Ces 5 semaines ont peut-être été les meilleures de ma vie. Je n'ai vu personne, mis à part le couple qui tenait le magasin où je faisais des emplettes très simples 2 fois par semaine, et Mr. Winchell, le propriétaire des chalets. Il passait me voir le dimanche pour s'assurer que tout allait bien et me demander si je passais du bon temps. Chaque fois qu'il me posait la question, je lui répondais que oui, et j'étais sincère. Il m'avait confié une clé du hangar à bateau et tous les jours, matin et soir, quand l'eau était calme, je prenais un canoë et allais pagayer. Je me souviens par une de ces soirées du lever silencieux de la pleine lune au-dessus des arbres et du sentier argenté qu'elle illumina sur l'eau, tandis que le reflet de mon canoë flottait en dessous de nous, comme son frère siamois immergé. Un huard cria tout près, et un congénère lui répondit. Bientôt, d'autres se mêlèrent à la conversation. Relevant ma pagaie, je suis resté assis là, à 300 mètres du rivage, à contempler la lune et à écouter les huards converser. Je me rappelle avoir pensé que si le paradis existait et qu'il ne ressemblait pas à ça, alors je n'avais pas envie d'y aller. Peu à peu, les couleurs de la nature se mirent à flamboyer. D'abord jaune timide, puis orange vibrant, ensuite écarlate et pourpre à mesure que l'automne succédait à un autre été dans le Maine. Au marché, je faisais mon choix dans des cartons remplis de livres de poche à la couverture arrachée, et j'ai bien dû en lire une trentaine. Des polars d'Ed McMahon, John D. MacDonald, Chester Himes, Richard S. Prater, des mélotorides genre Peyton Place et Danny Fisher, des westerns à la pelle, et un roman de science-fiction intitulé « À la poursuite de Lincoln » sur des chercheurs temporels chargés d'aller enregistrer un discours oublié d'Abraham Lincoln. Quand je ne lisais pas ou ne me baladais pas en canoë, j'allais marcher dans les bois. Ah, ces longs après-midi d'automne tiède et brumeux, ces raies de lumière dorée poussiéreuse projetées en oblique à travers les arbres, et la nuit, un silence si vaste qu'il semblait presque se réverbérer. De rares voitures passaient sur la route 114, et après 10 heures du soir, elles étaient inexistantes. Après 10 heures, Cette partie du monde où j'étais venu me reposer était le domaine des huards et du vent dans les sapins. Peu à peu, la vision de Frank Dunning affalée sur la tombe de son père commença à s'estomper. Et je me revoyais de moins en moins souvent, toujours à des moments incongrus, jeter le coussin souvenir encore fumant sur ses yeux fixes dans le mausolée de la famille Tracker. Fin octobre, alors que les dernières feuilles tombaient en tourbillonnant et que les températures nocturnes commençaient à descendre au-dessous de zéro, je résolus de me rendre à Durham pour m'imprégner de la configuration des lieux autour de Bowie Hill, où, d'ici 2 semaines, se produirait un accident de chasse. La maison de réunion des amis dont Al m'avait parlé faisait un point de repère idéal. Non loin de là, je crus reconnaître dans un arbre mort dangereusement penché vers la route celui avec lequel Al était aux prises lorsque Andrew Cullum, déjà vêtu de sa veste de chasse orange, était arrivé. Je me suis également attaché à localiser la maison de ce dernier et à reconnaître son trajet probable de chez lui jusqu'à Bowie Hill. Mon plan, c'était zéro plan, à vrai dire. Je me contenterais de suivre la piste que Al avait tracée. Je me rendrais à Durham tôt le matin, me rangerais près de l'arbre abattu, commencerais à m'attaquer à lui, puis feindrais une crise cardiaque lorsque Cullum arriverait et se mettrait lui aussi à la besogne. Mais après avoir localisé la maison de Cullum, je me suis arrêté acheter une boisson au magasin chez Brownie, à un petit kilomètre de là, et j'ai vu dans la vitrine une affiche qui m'a donné une idée. Une idée folle, mais non dénuée d'intérêt. L'affiche était intitulée « Comté d'Androscoggin, résultat du tournoi de Crib ». Suivait une liste d'une cinquantaine de noms. Le gagnant du tournoi, originaire de West Minute, avait marqué 10 000 piquets. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient ces piquets. Le deuxième en avait marqué 9 500. Et en troisième position, avec 8 722 piquets, venait Andy Cullum. Son nom était entouré de rouge. C'est ce qui a attiré mon attention sur lui. Les coïncidences existent, bien sûr. Mais j'en suis venu à croire qu'elles sont assez rares. Quelque chose est à l'œuvre, d'accord? Quelque part dans l'univers, ou derrière lui, une grande machine tourne, engrenant ses fabuleux rouages. Le lendemain, dans l'après-midi, je me suis présenté chez Andrew Cullum un peu avant 5 heures. Je me suis garé derrière son break Ford Woody et suis allé frapper à sa porte. Une femme au visage agréable, en tablier à volant et tenant un bébé dans les bras, m'a ouvert. Et j'ai su au premier regard que j'avais fait le bon choix. Parce que Caroline Poulain ne serait pas la seule victime de l'accident de chasse du 15 novembre, même si elle seule finirait en fauteuil roulant. « Oui ? Bonjour, madame. Je m'appelle George Amberson. » J'ai soulevé mon chapeau pour la saluer. « Je me demandais si je pourrais parler à votre mari. » « Bien sûr que je le pouvais. » Andy Cullum venait d'apparaître derrière son épouse et de passer un bras autour de ses épaules. Jeune, pas encore 30 ans à mon avis, il affichait une expression d'interrogation amicale. Son bébé tendit la main pour lui toucher le visage, et quand son père lui donna un baiser sur les doigts, la petite se mit à rire. Il m'a tendu la main et je l'ai serré. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Amberson ?» Je lui ai montré ma planche de crib. « J'ai une proposition à vous faire. J'ai vu chez Brownie que vous êtes un fameux joueur. » Mrs. Cullum apparut alarmée. « Mon mari et moi sommes méthodistes, monsieur Amberson. Les tournois de crib sont un simple divertissement. Mon mari a remporté un trophée et je suis heureuse de le lustrer avec soin pour qu'il fasse de l'effet sur la cheminée. Mais si vous voulez jouer aux cartes pour de l'argent, vous avez frappé à la mauvaise porte. » Elle souriait en disant ça, et j'ai vu l'effort que cela lui coûtait. Mais c'était néanmoins un vrai sourire. Cette femme me plaisait. Tous deux me plaisaient. Mon épouse a raison. Le regret, mais aussi la fermeté, étaient perceptibles dans le ton de Cullum. Je jouais de l'argent quand je travaillais en forêt, mais c'était avant que je rencontre Marnie. Écoutez, je serais fou de vouloir jouer de l'argent contre vous, ai-je observé, vu que je ne sais pas jouer du tout. Mais je voudrais apprendre. Alors, entrez donc, m'offrit-il. Je serai heureux de vous apprendre. Ça ne prendra pas plus d'un quart d'heure, et il nous reste encore une heure avant de passer à table. Si vous savez additionner pour faire 15 et compter jusqu'à 31, vous savez jouer au crib, parbleu. J'imagine que ce jeu implique plus que de savoir compter et additionner, sans quoi vous n'auriez pas remporté la troisième place au concours d'Androscoggin, lui ai-je dit. Et je voudrais faire plus que simplement apprendre les règles. En fait, je voudrais vous acheter une journée entière de votre temps. Le 15 novembre prochain, pour tout vous dire. De 10h du matin à 4h de l'après-midi, mettons. Là, sa femme parut vraiment effrayée. Je la vis serrer son bébé contre sa poitrine. Je vous offre $200 pour ces 6 heures de temps. Callum fronça les sourcils. À quel jeu jouez-vous, monsieur ? J'aimerais juste jouer au crib. Cette réplique, hélas, ne suffirait pas, je le voyais sur leur visage. Écoutez, je ne vais pas essayer de vous faire croire que je n'ai pas de motif caché, mais si j'essayais de vous l'expliquer, vous me prendriez pour un fou. C'est déjà fait, répondit Marnie Cullum. Renvoie-le, Andy. Je me suis tourné vers elle. Ce n'est rien d'illégal, Madame Cullum. Ce n'est pas une arnaque. Et ce n'est pas dangereux, je vous en fais le serment. Mais, serment ou pas, je commençais à me dire que ça ne marcherait pas. C'était une mauvaise idée. Quand il me rencontrerait à proximité de la maison de réunion des amis l'après-midi du 15, Callum se montrerait deux fois plus suspicieux. Cependant, j'ai continué à plaider ma cause, comme j'avais appris à le faire à Derry. « Il s'agit juste de jouer au crib, ai-je dit. Vous m'enseignez les règles, nous jouons pendant quelques heures, je vous donne $200 et nous nous séparons bons amis. Qu'en dites-vous ? D'où venez-vous, monsieur Humberson ? J'arrive du nord de l'État. J'étais à Derry tout récemment, je suis dans l'immobilier commercial. En ce moment, je prends des vacances au bord du lac Sebago avant de descendre dans le sud. » « Voulez-vous des noms, des gages, pour ainsi dire ?» J'ai souri. « Des gens qui attesteront que je ne suis pas fou ?»« Mon mari va en forêt tous les samedis pendant la saison de la chasse, » objecta Mrs. Cullum. « C'est sa seule occasion de sortie. Il travaille toute la semaine, et quand il rentre à la maison le soir, il fait déjà tellement sombre qu'il est inutile de charger un fusil. » Elle paraissait toujours méfiante. Mais je voyais maintenant autre chose sur son visage qui me redonnait espoir. Quand vous êtes jeune, avec un enfant en bas âge, et que votre mari est un travailleur manuel, ce que ses mains gercées et calleuses me confirmaient, $200, c'est une somme avec laquelle vous pouvez acheter beaucoup de provisions. Ou, en 1958, rembourser 2 mensualités du prêt pour la maison. Je pourrais manquer un après-midi de chasse, déclara Cullum. Le secteur est largement assez quadrillé de toute façon. De nos jours, il n'y a plus qu'à Bowie Hill qu'on peut espérer débusquer un foutu cerf. « Surveille ton langage devant le bébé, Mr. Cullum, » lui intima sa femme. Son ton était vif, mais elle sourit quand il l'embrassa sur la joue. « Monsieur Humberson, j'ai besoin de parler avec mon épouse, » m'a dit Cullum. « Si ça ne vous dérange pas de rester debout sous le porche un instant ?» « Je vais faire mieux que ça, » lui ai-je répondu. « Je vais descendre jusque chez Brownie m'acheter un stimulant. » C'est ainsi que la plupart des dairies appelaient les sodas. « Puis-je vous rapporter une boisson fraîche à chacun ?» Ils refusèrent poliment, et Marnie Cullum me referma la porte au nez. Arrivé chez Brownie, j'ai pris un jus d'orange pour moi et une lanière de réglisse pour le bébé. Si du moins elle était assez âgée pour en manger. Les Cullum allaient m'envoyer paître. Voilà ce que je pensais. Aimablement, mais fermement. J'étais un type étrange, venu leur faire une proposition étrange. J'avais espéré que cette fois, le passé serait plus facile à changer parce que Hal l'avait déjà changé par deux fois. Apparemment, ça n'allait pas être le cas. Mais une surprise m'attendait. Andy Cullum était d'accord et sa femme m'autorisa à donner la réglisse à leur petite fille qu'il accepta avec un gloussement de joie, se mit à la susauter, puis se la passa comme un peigne dans les cheveux. Ils m'invitèrent même à rester pour le dîner, mais je refusai. J'ai offert un billet de $50 pour un compte à Andy Cullum, qui commença par dire non, jusqu'à ce que sa femme insiste pour qu'il le prenne.